Alors, bon matin, bon dimanche à vous tous. Et quel beau chant, n'est-ce pas, que nous venons de chanter. Christ est roi. C'est extraordinaire. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et comme ça a été dit à plusieurs reprises, un jour, nous allons le voir face à face dans sa présence pour l'éternité. Alors, ce matin, je veux continuer alors dans cette série de messages que nous avons commencé il y a quelque temps. La semaine dernière, nous avons vu la troisième. La série s'intitule « Église, voici ton Dieu ». Et il y a un but pour ce type de message, parce que à travers ce message, nous cherchons à mieux connaître Dieu. Et il y a une raison pour cela. Parce que mieux connaître Dieu, c'est de croire, c'est de mieux l'aimer. Et quand nous l'aimons, nous allons croire, nous allons l'adorer, nous allons le servir. Et nous allons aussi remplir le but pour lequel nous avons été créés. Nous sommes la création de Dieu et Dieu nous a créés pour un but tout à fait précis, spécifique, c'est de l'adorer et de le servir. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, pour justement remplir ce mandat, mieux qu'on connaît le Seigneur, mieux on va l'aimer et mieux qu'on l'aime, mieux on va le servir. Et aussi, il y a des retombées parce que quand nous aimons le Seigneur et nous le servons, nous sommes au plein centre de sa volonté. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il déverse ses bénédictions sur nous et nous sommes aussi une source de bénédiction pour d'autres. Alors, on est gagnant partout. Alors, Église, voici ton Dieu. La semaine dernière et dans les messages précédents, nous avons vu Jéhovah Raha, l'Éternel, mon berger. Le Seigneur qui prend soin de nous, ses brebis. C'est extraordinaire. Et vous avez un psaume 23 qui nous parle de cela. L'Éternel est mon berger. Et parce que Dieu est notre berger, David a pu dire, et nous pouvons dire aussi ce matin, je ne manquerai de rien. Il va pourvoir à nos besoins. Nous avons aussi vu Jéhovah Rapha. C'est l'Éternel, celui qui nous guérit, notre guérisseur. Et ici, l'emphase est mise sur la guérison spirituelle. C'est notre plus grand besoin. Nous avons aussi, bien sûr, dans notre corps qui est mortel, on a des problèmes des bobos. Et c'est sûr que le Seigneur aussi peut nous guérir physiquement. Mais notre plus grand besoin de guérison, c'est de guérison de nos âmes et d'être guéri justement de la maladie du péché. Et l'Éternel est notre guérisseur. Jéhovah Rapha, quel beau titre! Nous avons aussi vu Jéhovah Nissi la semaine dernière. Vu que nous sommes au Seigneur, nous sommes dans un combat, dans un conflit, nous sommes dans une guerre. Parce que Dieu, il y a des ennemis. Et les ennemis de Dieu, par ricochet, sont aussi nos ennemis. Alors nous avons des combats à livrer. Et dans ce combat, Dieu nous promet la victoire. Parce qu'il est le Jéhovah Nissi. L'Éternel, notre bannière, et sous sa bannière, la victoire est assurée. Alors ce matin, nous voulons regarder un quatrième message dans cette série, Jéhovah Shalom, l'Éternel paix. D'autres traductions vont dire, l'Éternel donne la paix. D'autres traductions vont dire, l'Éternel est ma paix. Alors qu'importe la manière dont on le voit, le mot « shalom » est là, qui veut dire « la paix ». Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste simplement vous donner une définition de ce terme très, très important de bien saisir le sens de ce mot « shalom ». veut dire la cessation d'hostilité. Quand ça, c'est dans un contexte de guerre. Quand il y a la paix entre deux pays, deux nations, alors il y a une cessation d'hostilité. C'est un état aussi de concorde, d'accord entre les membres d'un groupe, d'une nation. Ça veut dire aussi la tranquillité, la quiétude, exempte de bruit, d'agitation, de désordre. La tranquillité, une sérénité d'esprit. Quelqu'un qui connaît la paix, il y a cette sérénité d'esprit en lui. Ça peut aussi dire un bien-être, être bien dans sa peau. La santé, et surtout spirituelle, et même aussi une connotation de prospérité. Alors, toutes ces explications, toutes ces significations sont englobées dans le mot Et vous savez, c'est tout à fait spécial parce que nous vivons dans un monde qui a terriblement besoin de paix. Et j'ai sorti quelques statistiques. Le monde en guerre, et c'est très intéressant ce que nous disons ici, dans 3357 années d'histoire, il y a eu seulement 227 années de paix. 3130 années de guerre, 3,64 milliards de morts. Un milliard, c'est 1000 millions. C'est du monde, ça. Plus de 808 000 traités de paix ont été signés, mais ensuite, par la suite, brisés. Et les États-Unis, nos voisins du Sud, ont connu seulement 17 années de paix en 239 années de leur existence. Ça en dit long sur la condition humaine. Et vous savez, ce n'est pas seulement réservé aux nations, parce que nous avons aussi des conflits, des désaccords au niveau de la famille, au niveau des couples, et même aussi de façon personnelle au niveau des individus. Et ce matin, nous êtes dans un contexte semblable. Il n'y a pas de guerre en Israël pour le moment. C'est dans Exode, Juges chapitre 6. Mais dans ce contexte que nous allons voir bientôt, il y a une situation qui existe en Israël où il n'y a pas de paix. Et le contexte, c'est parce qu'il y a un ennemi Madian qui vient dans le pays. Et c'est un ennemi qui vient justement pour ravager. Quand Israël sème, il y a une récolte, mais cet ennemi arrive, l'homme Madian. Et bien sûr, et si vous allez voir tantôt aussi, il y a un autre Amalek qu'on a vu la semaine dernière, avec d'autres qui sont venus justement pour ravager le pays d'Égypte. D'Israël plutôt. Et à cause de cela, Israël est dans une grande détresse. Il y a l'agitation. Les gens sont bouleversés par qu'est-ce qui se passe, jusqu'au point qu'il faut qu'ils se cachent dans les cavernes et dans les trous, dans les grottes. Et vous savez, il y a une problématique plus grande que cela. Ça, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Mais il y a une raison pour cela. Pourquoi est-ce que Dieu, qui avait amené son pays, son peuple du pays d'Égypte, les avait amenés dans la terre promise, où est-ce qu'ils devraient être justement dans un état de paix, devraient être une nation prospère? On a parlé tantôt de paix qui veut dire aussi bien-être, être bien dans sa peau, avoir la prospérité, la sérénité. Et dans le contexte de ce que nous allons voir, il n'y a rien de ça qui existe. Et la problématique, c'est parce que le livre de Juges nous montre qu'il y a une problématique encore plus grande. C'est à cause du cœur d'Israël. Il y a cette insoumission à la volonté de Dieu. Et le contexte du livre de Juges nous dit ceci: en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est ceux qui ne chantaient pas « Christ est roi » à cette époque-là. Ils disaient « Moi, je suis roi ». Moi, je suis roi, c'est moi qui fais les règles, je fais ce que je veux. Et à cause de cela, il y a cette agitation, ces inquiétudes, cette détresse dans le cœur. Quelqu'un a bien dit ceci, si vous voulez avoir de l'agitation dans votre âme, vous n'avez qu'à marcher dans une voie autre que celle que Dieu a tracée pour vous. Mais si vous voulez connaître la paix, la joie et le vrai bonheur, vous devez soumettre votre vie à la volonté de Dieu. Tant que vous ne faites pas cela, vous ne connaîtrez ni la vraie paix, ni une adoration authentique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre à cœur. Ça, c'était dans le contexte d'Israël. Mais dans notre contexte maintenant, de ce matin, qu'en est-il pour vous et pour moi? Vous savez, ce texte, quand je l'ai préparé, ça m'a beaucoup parlé. Et je demande toujours au Seigneur, oui, je vais livrer un message à ton peuple, mais je veux aussi que moi, premièrement, que ça me parle. Et je dois vous dire qu'il y a des moments dans ma vie où est-ce que j'ai connu un peu ce que Israël vivait. Cette agitation, cette détresse d'âme parce que je faisais ce qui me semblait bon. Et aussi longtemps que nous prenons ce chemin et nous ne suivons pas le chemin que Dieu a tracé pour nous, il n'y aura pas de paix dans nos âmes. Et ça, c'est ce qui arrive en Israël, et ça aussi qui peut nous arriver. Alors, je ne connais pas votre situation ce matin, mais je vous demande justement de prendre une prise de conscience. Et devant le Seigneur, vous posez la question, où est-ce que je suis rendu dans cette marche avec le Seigneur? Est-ce que ce matin, je peux dire que oui, j'ai la paix du Seigneur dans mon cœur? Ou bien est-ce que dans mon cœur, il y a justement cette agitation, cette détresse d'âme à cause du fait que je suis en train de suivre une autre voie que celle que Dieu a tracée pour moi? Alors Israël, dans ce contexte, fait quelque chose qu'on voit à travers le livre des Juges, tout le temps. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et Dieu, parce que c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, Dieu va répondre. Et combien de fois nous voyons à travers le livre des Juges? C'est un cycle qui se répète. Ils sont dans la misère. Qu'est-ce qu'ils font? Ils crient à l'Éternel. L'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il suscite un juge, un libérateur. OK, le peuple suit. Là, il y a une période de paix, de tranquillité. Et qu'est-ce qui arrive? Le jugement, il tombe encore dans le même cycle. Et ça revient, et ça revient. Et combien de fois ils ont crié à Dieu, et combien de fois Dieu, dans sa grâce, dans sa patience, dans sa miséricorde, il répond. C'est extraordinaire. Alors, il crie à Dieu. Et Dieu va justement susciter un libérateur. Son nom, c'est Gédéon. Et Dieu va faire deux choses. Il y a tout d'abord un plan pour ramener la paix dans le pays d'Israël. Mais avant de faire cela, il va ramener la paix dans le cœur de Gédéon. Et cet homme, après cela, il va être cet instrument entre la main du Seigneur pour amener la paix en Israël. Alors, comment est-ce que Dieu fait cela? Quelles sont les manières qu'il se prend justement pour amener la paix dans le cœur d'un individu? C'est important parce que nous avons des leçons à prendre dans la vie de Gédéon. Et si ce matin vous êtes ici, vous n'avez pas la paix de Dieu dans votre cœur, il y a des leçons très importantes qui pourraient vous justement aider à sortir de cette situation et de reconnaître et de retrouver la paix de Dieu. Alors, prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Tournez dans le livre de Juges, chapitre 6 et le verset 11. Et je vous ai donné le contexte. Madian est là qui, justement, ravage le pays d'Israël. Les enfants d'Israël sont dans une grande détresse. Ils crient à l'Éternel et Dieu intervient. Dieu, Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, va intervenir pour aider justement son peuple. Alors le verset 11. « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Opra qui appartenait à Joas de la famille de Abiézer. Gédéon, notre héros, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » L'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau, et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Et les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands plutôt le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, « tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Opra qui appartenait à la famille de Abiézer. Et voilà notre récit pour ce matin. Gédéon, un homme, comme je vous ai dit, qui est dans une situation de détresse, mais qui aussi va connaître le Dieu de paix, Jéhovah Shalom. Et Dieu va le prendre par la main doucement et étape par étape va justement révéler sa personne à Gédéon, va lui donner la paix de Dieu, va lui donner aussi une révélation de sa personne comme étant le Dieu de paix. Et comment est-ce qu'il fait cela? Alors, premièrement, par un réveil. Et en montrant à Gédéon les possibilités et le potentiel que Gédéon avait pour être ce libérateur que Dieu chercher parmi les enfants d'Israël. La première chose que je vais vous faire remarquer ici dans le texte, si vous regardez encore le texte au verset 11, Gédéon battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Ça, c'est pathétique, ça. Israël, c'est dans leur pays. Ils ont le Dieu de l'éternité qui est leur Dieu. Et voici comment est-ce qu'ils ont été réduits dans cette situation, où est-ce que normalement, quand on battait du froment, c'était sur un lieu élevé, pour avoir justement les vents, pour vanner justement le froment. Et là, il est dans un trou, un pressoir, où est-ce qu'on pressait les raisins, puis il est à l'abri, dans la cachette, il a peur. Ça, c'est une situation, ce que j'appelle une situation de survie. Il n'est pas dans, justement, la vie abondante que Dieu avait dans son plan pour Israël, d'être dans le pays, avec Dieu pour leur Dieu, puis d'être prospère sur le plan physique et aussi matériel et aussi spirituel. Nous avons un homme ici qui a peur, qui est en cachette et qui est en mode survie. Mais Dieu a des plans pour Gédéon. Et Dieu regarde que dans cet homme, à cause justement des dons et des talents qu'il possède, il est capable justement d'être le libérateur que Dieu cherche. Et l'ange de l'Éternel va lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et j'imagine que Gédéon, quand il a entendu cela, il a dit, mais où est-il? Et non, Dieu dit, tiens, Gédéon, je te parle. Pourquoi? Parce que Dieu voyait dans Gédéon cet homme qu'il avait créé. Il avait donné des dons et des talents. Qu'est-ce qu'il pourrait devenir? Il voyait plus que le status quo, comment est-ce que Gédéon était, mais il voyait qu'est-ce que Gédéon pouvait devenir. Et ça, c'est toujours la façon dont Dieu agit quand il nous regarde, quand il vous regarde. Avec Abraham, un homme qui était vieux, et sa femme stérile, il a dit, ton nom sera Abraham, père d'une multitude de nations. Il regarde Simon-Pierre. Il va dire, tu es Simon, mais tu vas devenir quoi? Pierre! Il voyait le potentiel dans ces hommes. Et vous savez que Pierre, lors du jour de la Pentecôte, il a prêché un sermon extraordinaire. 3000 âmes qui ont été sauvées. Et ce matin, ici, Dieu nous regarde. Il ne voit pas nos limites et nos faiblesses. Il voit le potentiel qui est en chacun de vous. Et il voit ce que vous pouvez devenir. Et deuxièmement aussi, des possibilités. Parce que ce que Gédéon possédait, ces dons et les talents que Dieu lui avait donnés, avec Dieu, il pouvait accomplir des grandes choses. Et c'est pourquoi le Seigneur il met les deux choses ensemble. Tu es un vaillant héros parce que je vois ce que tu peux devenir, et de plus en plus, je suis avec toi. Et ça, c'est une combinaison gagnante. L'Éternel avec toi, Gédéon. Tu es en train de te cacher, de Madian, tu es en mode survie, mais ce n'est pas ça que j'ai pour toi, Gédéon. Ce n'est pas ça. Je vais te montrer qu'est-ce que tu peux maintenant devenir parce que je suis avec toi. Alors, il commence par un réveil. Tiens, Gédéon, réveille-toi là. Réveille-toi là. Il y a une problématique en Israël. On a besoin d'un libérateur. C'est toi que j'ai choisi. Et je sais pourquoi, parce que je vois qu'est-ce que tu peux faire avec moi. Deuxièmement, Dieu va pas seulement réveiller Gédéon, mais il va aussi faire une révélation. C'est bien de savoir que Gédéon avait des dons, des talents, mais quoi faire avec cela? Et Dieu maintenant, de façon précise, va dire à Gédéon, l'Éternel tourna vers lui. Bien sûr, Gédéon, j'ai sauté quelque chose. Gédéon, il amène des objections. Hein? Ah, non, tu ne peux pas avec nous. Tu ne peux pas être avec nous, Dieu. Tu nous as abandonnés. Il n'y a rien qui se fait en Israël. On a parlé des prodiges dans le passé, mais ça ne se fait plus aujourd'hui. Puis, regarde ce qui arrive, là, tu nous as livrés entre les mains de Madian. Mais oui, mais c'est précisément cela. Dieu voulait les réveiller pour le dire, mais écoute, vous êtes rendus là parce que vous m'avez abandonné. Mais c'est merveilleux que Dieu n'écoute pas les objections. Dieu dit non. Dieu revient à la charge. Et il va maintenant montrer à Gédéon une révélation. L'Éternel tourna vers lui, verset 14, et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Madian, Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? » Alors Gédéon, tu n'as pas besoin de tâtonner. Moi, j'ai tracé une voie pour ta vie. C'est toi que j'ai choisi. Tu vas être dans ce contexte et en ce moment, tu vas être le libérateur en Israël. Délivre Madian, Israël de la main de Madian. C'est ce que je veux pour toi. C'est ça ce que je veux que tu accomplisses. Je t'ai donné des dons, je t'ai donné des talents. Tu as le potentiel. Je serai avec toi et maintenant, je te montre le plan pour ta vie. Et pourquoi est-ce que Dieu fait cela? Parce que quand le plan est révélé, Gédéon est devant un choix. Il sait maintenant qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse avec sa vie. Ce n'est pas être là en cachette, en train de se cacher de Madian. Dieu veut qu'il soit le libérateur. Alors le plan est révélé à Gédéon. Et Gédéon, maintenant, s'il accepte ce que Dieu a pour lui, il soumet justement sa volonté à la volonté de Dieu par l'obéissance. Il entre maintenant un peu plus dans le chemin de la paix. Parce que ce beau texte dans Jérémie 29, 11 nous dit ceci, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix. » Et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ça, c'est quand nous sommes dans la volonté de Dieu, en train de marcher dans ses voies, en train d'accomplir les œuvres de justice qu'il a préparées d'avance pour nous. Ça, c'est une manière de connaître la paix de Dieu dans nos cœurs. Je vous ai dit qu'il y avait de la détresse à l'extérieur, mais il y avait aussi la détresse dans le cœur de Gédéon. Et Dieu est en train tranquillement de le prendre par la main et de l'amener de cet état d'agitation à un état où est-ce qu'il va être, il va connaître la paix de Dieu. Alors, il y avait justement ce réveil. Maintenant, Dieu lui montre le plan pour sa vie. C'est ça, Gédéon, que je veux que tu fasses. Si tu l'acceptes et tu le fais, tu vas avoir la paix dans le cœur. Troisième chose que Dieu va faire avec Gédéon, c'est lui donner une promesse d'une réussite. Peux-tu imaginer comment ça peut enlever justement le fardeau des épaules? Dieu est tellement gracieux, tellement bon. Il va dire à Gédéon, et encore Gédéon, il amène des objections. Quand Dieu va dire, « Va, délivre Israël de la main de Madian », il dit, « Mais avec quoi je vais faire cela? » Je suis un nobody, comme on dit en anglais. Mais encore une fois, Dieu est tellement gracieux. Il n'écoute pas les objections de Gédéon. Il va dire ici, « Mais, ok, c'est vrai que ta famille est pauvre et toi, tu es le plus petit dans ta famille, mais. » Je serai avec toi. Et parce que je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Voici mon plan pour ta vie. Et je peux te dire aussi, Gédéon, que si tu le suis pleinement, tu vas réussir. N'est-ce pas merveilleux? C'est extraordinaire. Comme justement. Et ça, c'est un encouragement à Gédéon. Parce que c'est une chose d'entrer dans cette voie de soumission à la volonté de Dieu, mais c'est une autre chose d'y persévérer. Mais si tu sais que tu vas réussir à la fin, alors quand il va avoir des moments difficiles, quand il va avoir des combats, quand l'ennemi va venir justement, cet encouragement que tu vas réussir sera un puissant encouragement d'y rester justement dans cette voie. Et c'est ce que Dieu veut faire avec Gédéon pour lui montrer maintenant. Non, Gédéon, tu vas réussir, tu vas battre Madian comme un seul homme et cela devrait t'encourager de persévérer dans cette voie. Alors le texte dit dans Ésaïe 26 encore, à celui qui est ferme dans ses sentiments. tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Alors, ça c'est le plan pour toi, Gédéon. Tu vas réussir. Alors, tu peux continuer maintenant à progresser dans cette voie de paix que l'Éternel est en train de tracer devant lui. Mais, et j'imagine que Gédéon, en ce moment-là, quand maintenant il sait qu'est-ce que Dieu veut, il sait que oui, Dieu le voit, et Dieu l'avait choisi comme son libérateur, comme à cause justement du potentiel qu'il possède. Il sait que Dieu lui a donné le plan pour lui montrer exactement qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse, et même aussi la réussite est garantie. Ces trois étapes pour Gédéon, ce sont justement un baume pour son âme. De savoir tout cela, j'imagine que, c'est extraordinaire maintenant, le Seigneur est avec moi, il y a un plan pour ma vie, il m'a promis que je vais réussir. Ça amène la paix de Dieu, la paix qui est dans mon cœur. Il n'y a pas besoin de tâtonner, il n'y a pas besoin d'aller de droite à gauche, il sait exactement qu'est-ce que Dieu veut de lui, il sait comment ça va finir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Ça, c'est la paix de Dieu qui s'installe dans un cœur qui est devant la volonté de Dieu, qui veut obéir à la volonté de Dieu et qui sait qu'avec Dieu, ça va réussir. Mais Dieu, il va amener Gédéon un peu plus loin. Parce que c'est une chose de connaître la paix de Dieu, mais aussi, c'est encore mieux de connaître le Dieu de paix. Et c'est ce que Dieu va faire maintenant dans le reste du chapitre qu'on a lu. Il va l'amener à découvrir maintenant qui il est, Dieu, un Dieu de paix. Et comment est-ce qu'il fait cela? Mais j'imagine que Gédéon, maintenant, il commence à se poser des questions. Mais c'est qui ce visiteur-là qui est ici? Et on voit qu'il y a une petite idée que c'est quelqu'un de spécial. Et dans son cœur, il monte justement sur ce désir de l'adoration, de faire quelque chose de plus pour justement ce visiteur. Alors, Gédéon va dire au verset 17, il va dire, « Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel lui dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennent. » Encore une fois, un Dieu qui est gracieux. Hein? Avant cela, on ne voit pas Gédéon qui est en train d'adorer Dieu. Et Dieu, maintenant, est en train de dire à Gédéon, « OK, tu veux m'adorer, puis je vais attendre que tu reviennes avec ton offrande. » Tellement grâce, tellement de bonnes applications pour l'adoration là-dedans. Mais pour le moment, comme j'ai dit, Dieu veut que Gédéon connaisse non seulement la paix de Dieu, mais aussi le Dieu de paix. Comment est-ce qu'il fait cela? Dans un premier temps, quand nous cherchons à adorer Dieu, Dieu, dans sa grâce, nous donnera une meilleure appréciation de sa personne. Et quand nous avons une meilleure appréciation de sa personne, nous chercherons à l'adorer. Ça, c'est la fameuse saucisse à high grade, là. Mais c'est la même chose. Le moment que nous avons cet élan d'aller vers Dieu, Dieu se révèle. Et quand Dieu se révèle, mais ça nous incite de continuer à aller vers Dieu. Alors, Gédéon, maintenant, Dieu veut justement qu'il le connaisse comme un Dieu de paix, et Gédéon veut l'adorer. Alors, il va faire dans un sacrifice. Et vous savez que, je vous ai dit que Madian ravageait le pays, il ne restait pas grand-chose. Et là, Gédéon va entrer, préparer un chevreau. Je ne sais pas ce qu'il a pris cela, mais en tout cas, il en a trouvé un. Il fit avec un épha 16 kg de farine des pains sans levain, ça c'est beaucoup. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Et je pense qu'il y a la leçon qui est importante ici, c'est que quand nous sommes devant Dieu, comme je dis, il y a le service, bien sûr. Oui, le plan de Gédéon est là. Dieu a tout tracé, qu'est-ce qu'il veut, il sait qu'il va réussir. Mais il y a l'autre côté aussi, c'est l'adoration. Et dans la parole de Dieu, c'est toujours adoration avant service. Alors, avant d'aller justement accomplir ce que Dieu veut pour lui, Dieu veut amener Gédéon d'être un adorateur. Et pour l'adoration, ça prend toujours quelque chose, ça prend un sacrifice. David, dans un psaume de Samuel, plutôt 24-24, va dire ceci, « Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Alors, Gédéon, il est prêt maintenant à faire un sacrifice pour nous démontrer dans cet élément d'adoration, il y a un élément de sacrifice. Deuxièmement, Dieu va accepter ce que Gédéon apporte. L'ange de l'Éternel qui est là, il va prendre le bout de son bâton, il va toucher ce que Gédéon fait parce qu'il pose ça sur le rocher. Et là, il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et Gédéon, quand il voit cela, maintenant il allume, il sait maintenant qu'il était en présence de Dieu, et le cri, le terreur qui le saisit, c'est malheur à moi. Parce qu'il est conscient que dans la parole de Dieu, qui s'est écrit qu'on ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. Comme Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu avait dit, non, tu ne peux pas me voir et voir ma face et voir, je vais te cacher dans le creux d'un rocher pour pouvoir me voir par derrière. Alors, Gédéon est saisi de terreur. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce que dans l'adoration, il y a aussi cet élément d'une crainte respectueuse de la personne de Dieu. Et Gédéon, il est terrifié, il pense qu'il va mourir, et Dieu va lui dire, sois en paix. Je ne suis pas comme cela, Gédéon. Ne crains point, tu ne mourras pas. Et nous avons ici que Dieu, en acceptant l'offrande de Gédéon, va justement le rassurer. Je n'aurais pas accepté ton offrande, Gédéon, si je voulais te faire mourir. Je suis ce Dieu de paix et tu amènes cette offrande, je l'accepte. Je veux que tu aies cette paix de Dieu avec toi et je veux aussi que tu sois tranquille dans ton esprit. Un sacrifice a été fait. Le chevreau que tu as tué, le sang a coulé. Et à l'époque, c'était la manière justement que Dieu entretenait des relations avec l'homme. Parce que l'homme, avec son péché, méritait quoi? La mort. Et combien de fois on voit des personnes dans la présence de Dieu? On pense à Ésaïe, quand il voit Dieu qui est élevé sur un trône, qu'est-ce qu'il dit? Malheur à moi, je suis perdu. Là, il est saisi justement par la sainteté de Dieu. Puis il pense qu'il va mourir. Mais la même chose pour Gédéon. Et Dieu dit, non, il y a un sacrifice qui a été fait. J'accepte ton sacrifice, alors sois en paix, tu ne mourras pas. Je ne suis pas comme cela, Gédéon. J'ai justement un sacrifice qui était là que j'ai accepté. Et la troisième chose que nous voyons avec Gédéon, c'est l'appréciation. Maintenant que Gédéon, il y a le plan de Dieu pour sa vie, ça lui donne un paix. Dieu accepte son offrande, il sait qu'il y a la paix avec Dieu. Et maintenant, il va un pas plus loin. Il va construire un autel. Et l'autel nous parle toujours de l'adoration. Et il va donner un nom qui est très significatif. À cet autel, il va l'appeler l'Éternel Paix, Jéhovah Shalom. Gédéon sort gagnant de cette rencontre. Il y a la paix avec Dieu, à cause de son sacrifice. Il y a la paix de Dieu à cause de son service. Dieu a révélé une chose extraordinaire, son plan pour sa vie, tu vas réussir. Alors, il y a cette quiétude, il est en plein centre de la volonté de Dieu, et voilà un homme qui maintenant est tranquille dans son esprit. Et aussi, il a vu Dieu agir, un Dieu trois fois saint. Il a été dans sa présence, mais il a été accepté à cause du sacrifice. Et maintenant, il peut regarder Dieu et dire, tu es un Dieu de paix. Jéhovah Shalom. Alors, voilà comment est-ce que Dieu prend un homme. Dans un contexte, comme je vous dis, de détresse, il va l'utiliser pour ramener la paix en Israël. Mais Dieu travaille premièrement dans son cœur pour lui donner la paix de Dieu, la paix avec Dieu et aussi le Dieu de paix. Tout cela ensemble. Maintenant pour nous, je vous ai dit au début, quand on a vu La seule manière pour nous d'avoir cette paix de Dieu dans nos cœurs, c'est d'être au plein centre de sa volonté. Si vous êtes ici ce matin et vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur, vous avez la paix avec Dieu. Le sacrifice a été accepté. À la croix, Jésus-Christ est mort pour vous et mort pour moi. Le sang a coulé et Dieu, au lieu de regarder justement à nous, à nos péchés, il voit le sang de Christ. Et maintenant, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est un feu dévorant, mais le sacrifice de Christ est là. Mais plus que cela, Dieu veut nous amener dans une relation où est-ce que nous avons la paix de Dieu dans nos cœurs. Et la seule manière d'avoir cela, c'est justement d'être au plein centre de sa volonté. Et ça commence comment? Ça commence par nous-mêmes en nous livrant en sacrifice. Romains chapitre 12, versets 1 et 2, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Si vous voulez avoir l'agitation, si je veux avoir l'agitation dans mon cœur, je prends un autre chemin. Si je veux marcher au plein centre de la volonté de Dieu et avoir la paix de Dieu dans mon cœur, sachant que Dieu m'a créé, sachant que Dieu m'a sauvé, sachant que Dieu m'a donné des dons et des talents, vous a donné des dons et des talents, sachant que Dieu a un plan pour votre vie, sachant que Dieu, dans sa bonté, va vous révéler ce plan, sachant que Dieu est avec vous et moi pour nous dire, vous allez réussir. Mais nous pouvons quitter ce lieu avec une paix, une tranquillité, sachant que Dieu nous a appelés à plus qu'être cachés dans un coin comme Gédéon, en train de battre du froment, quand il devrait être un libérateur en Israël. Alors, deuxième chose, adoration authentique, on offre nos corps à Dieu. Et la deuxième chose, un service dévoué. Si nous ne savons pas, parce que c'est sûr que oui, on peut être incertain en ce qui concerne notre avenir, mais je pense ici à Saul de Tarse. Il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Et lors de sa conversion, ça devrait être quelque chose qui va ensemble. Souvent, on passe des années, puis finalement, OK, on dit, OK, Seigneur, c'est assez, là. J'arrête de me battre avec toi. Montre-moi ce que tu veux pour moi. Je suis prêt à faire ta volonté. Mais lui, tout de suite, à sa conversion, il a dit, quoi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux me soumettre à ta volonté. Et en faisant cela, nous connaîtrons le Dieu de paix quand nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant et nous connaîtrons aussi la paix de Dieu. Alors voilà notre Dieu ce matin, le Jéhovah Shalom, l'éternel paix. Et ce matin, je termine avec cela. Si vous êtes ici, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, mais la première chose, la première étape, c'est d'avoir la paix avec Dieu. Et c'est possible, pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort à la place pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà notre Dieu qui veut maintenant se réconcilier avec sa création, qui veut ce matin soit ramener dans vos vies, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, une paix, une tranquillité dans vos cœurs, parce que c'est le Dieu de paix, c'est Jéhovah Shalom. Et si vous vous remettez entre ses mains, il va vous montrer exactement qu'est-ce qu'il veut pour vous, il va vous garantir que vous allez réussir, et par sa grâce, ça devrait vous tranquilliser, et puis dire, écoute, moi, c'est tout ce que j'ai besoin, le Seigneur est avec moi, il va me donner cette paix dans mon cœur. On va prier. Seigneur, merci d'être un Dieu qui est un Dieu de grâce et de paix. Je demande, Seigneur, de prendre ce que nous avons vu ce matin et de l'appliquer à nos cœurs, moi le premier. Que nous puissions avoir cette assurance que tu es avec nous. Jamais que tu vas nous abandonner, jamais que tu vas nous délaisser. Seigneur, tu as tracé une voie pour chacun de nous ici ce matin et ma prière pour moi et pour mes frères et mes sœurs. Que nous puissions marcher au plein centre de ta volonté. Alors entoure-nous par derrière et par devant. Que ta paix, Seigneur, remplisse nos cœurs et que nous puissions être reconnaissants, Seigneur, que tu es un Dieu de paix et qui cherche à se réconcilier avec l'humanité. Et s'il y a quelques-uns ici ce matin qui ne connaissent pas, Seigneur, que tu te révèles à ces personnes afin qu'ils puissent te connaître et d'être les adorateurs du Dieu vivant. Nous demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen.